liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Créée par les Gilets jaunes, cette émission a évolué pour s'affirmer comme un espace de parole ouvert à toutes citoyennes et citoyens, habitant sur notre territoire et ayant quelque chose à dire ou des initiatives à partager concernant notre vie commune, nos biens communs. Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail, paroledecitoyen@frequence7.net, minuscule tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Aujourd'hui, nous sommes trois autour de la table. Patricia, Anne et moi-même. Au menu du jour, comme à notre habitude, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, les citoyens, citoyennes en action sur notre territoire. En plat de résistance, quand des citoyens ardéchois nous racontent les cahiers de doléances ardéchois partie 2. Et nous terminerons en solidarité avec le peuple togolais en partageant avec vous une recette de ce pays. Surtout, prévoyez papier et crayon. Bon appétit! Alors, au niveau des luttes locales passées, avant que Anne nous parle de l'A69, on va écouter une musique à ce sujet.
Non à cette autoroute de la déprime, on a déjà la N126. Nous on est là, on lâchera pas l'affaire, pour que vivent les platanes centenaires. C'est les rois des platanes, nos écureuils qui vont de Liane en Liane. C'est les rois des platanes, de tout là-haut, ils protègent la savane. Depuis toujours, pour nous la voie est libre, avec le cœur, on atteindra les cimes, parce que la vie vaut plus que du bitume. Nous le goudron, on en a plein les plumes. C'est les rois des platanes, nos écureuils qui vont de Liane en Liane. C'est les rois des platanes, de tout là-haut, qui protègent la savane.
Et ben voilà, c'était La Voix est libre. Bonjour La Voix est libre. Ces chants qui ont été donc chantés, composés entre 2023 et 2025. 2023 signant le début des travaux de la 69. On va pas vous refaire là toute l'histoire parce que c'était fort long et il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'événements. Mais si ce n'est rappeler quand même que donc ce projet a été classé priorité nationale en 2019. C'est vous dire l'importance accordée à cette autoroute de 53 km qui donc était déjà reliée par une nationale. Et qui a coûté, en fait, enfin l'estimation était de 450 millions d'euros à l'époque. Et donc, à Tosca, le concessionnaire mandaté par l'État s'était engagé à finir les travaux en 2 ans. Voilà. Et donc là, il y a eu quand même récemment, après ces luttes et la répression de ces luttes d'ailleurs, il y a quand même eu le 27 février un coup de tonnerre, puisque suivant les préconisations de la rapporteure publique, eh bien, la justice administrative a considéré que les bénéfices de la A69 étaient de portée limitée. Donc malgré la priorité nationale, finalement, les arguments de désenclavement, d'aménagement du territoire pour favoriser l'installation d'entreprises, la rapidité de circulation qui est quand même extrêmement minimale pour un investissement énorme et pour aussi l'artificialisation de quelques centaines d'hectares de terre parmi les plus fertiles d'Occitanie. Enfin voilà, tout ça a été quand même estimé comme un peu abusif, en fait, disons-le, par la rapporteure. et qui donc disait que il n'était pas tellement justifié que l'État déroge à l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage. Sacrés écologistes quand même, hein, de se préoccuper de ce genre de choses. Mais bon, voilà, il était bien question d'une dérogation, parce qu'effectivement, la loi, normalement, n'autorise pas ça, tout simplement. Mais les intérêts étant très présents, du coup, voilà, le projet a été arrêté, les travaux ont été stoppés, et alors là, l'État, les collectivités territoriales d'Occitanie et les entreprises, en fait, n'étaient pas du tout contentes. Et donc, alors là, maintenant, on assiste en fait un peu à des manœuvres, un peu sur tous les fronts. Puisqu'il n'y a pas de raison, donc impératif d'intérêt public majeur, dont l'acronyme étant le RIIPM, voilà, pour justifier des atteintes à l'environnement, eh bien le 24 mars, l'État a fait appel de la décision du tribunal administratif de Toulouse. Et puis alors, ne se contentant pas d'attendre le travail de la justice, donc du rendu de cet appel, le ministère des Transports a demandé un sursis à exécution. Et donc un sursis à exécution, en fait, ça permettrait de reprendre très rapidement les travaux avant même que la justice rende son jugement quant à l'appel. Voilà, donc ça c'est le premier levier organisé par l'État. Et puis alors le deuxième, ce serait même éventuellement d'envisager de contourner la justice en déposant un projet de loi spécifique qui rendrait caduque le jugement administratif. Voilà où nous en sommes. Alors tous les moyens sont bons, hein, parce que time is money, et puis il s'agit quand même aussi de ne pas perdre la face. Alors, devant cet acharnement contre le sens et le bien commun, eh ben, un autre chantier juridique se profile, puisque devant les déclarations contradictoires et incohérentes sur le coût des matériaux et de leur extraction, Christine Arrigui, qui est députée de la Haute-Garonne et rapporteure elle aussi de la commission d'enquête parlementaire sur le montage juridique et financier de l'autoroute A69, a saisi le procureur de la République du tribunal de Paris. Car contrairement aux allégations du directeur général d'Atosca, donc la société qui fait le chantier, eh bien la poursuite du chantier occasionnerait non pas zéro extraction, comme il avait été mentionné, pour faire passer ses travaux, mais 1,9 million de tonnes de matériaux extraits des carrières de la région. Voilà. Donc là encore, voilà, un chantier au sens propre juridique en perspective. Donc c'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre, peut-être. Mais voilà, opacité et intérêts privés et politiques, eh bien, sont les mamelles du béton.
Ayant une pensée pour tous les écureuils qui ont été blessés déjà dans cette histoire.
Ah, oui.
Et là, vu ce que tu nous dis, Anne, j'imagine des écureuils très poussiéreux. Enfin, si jamais ils devaient extraire toute cette matière du sol, quoi.
Oui, c'est ça. Le coût écologique, sacré écolo quand même, hein, te préoccuper de ce genre de choses. Ils abusent.
Alors, il est temps de parler un petit peu des autres luttes. Mais il y avait eu la manif contre l'extrême droite au niveau national. Et sur Aubenas, ça a réuni un peu plus de 300 personnes le 22 mars dernier. Donc, c'était quand même pas mal. Aussi, je voulais vous parler d'un communiqué de presse en soutien à la proposition de loi qui a été plus un appel à signer une pétition, qui a été publié par les membres de l'association des usagers de l'hôpital et qui seront présents le 4 avril à 14h devant l'hôpital. Et la Bobine a annoncé publiquement la soirée commune avec les usagers d'Aubenas, de l'hôpital. Une conférence gesticulée sur l'hôpital, ça sera le 10 avril à 18h. Rappelons que la Bobine fera son AG le 11 avril à 17h30. Il y avait aussi les 1 an de la cantine populaire à Aubenas. Donc il y a eu une soirée concert le vendredi 28 mars pour fêter le succès de ce lieu associatif. Et sinon, les luttes à venir. Donc une semaine assez importante là sur Aubenas. Il va y avoir l'événement Palestine en vue du 2 au 6 avril. Donc, ça sera au navire. Et à la Bobine, il y aura une soirée d'échange et de partage avec lecture-concert. Le 5 avril, cette lecture musicale. Et ça sera lu par Philippe Tancelin et accompagné de Stéphane Bachard musicalement avec son oud. Il y a une buvette à partir de 18h30. Et à présent, on va parler d'un sujet plus difficile, donc c'est la guerre au Moyen-Orient, et je voulais qu'on écoute une chanson suédoise pour la Palestine, pour défendre la Palestine.
Live Palestina o grossa sionismen.
Live Palestina o grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina o grossa sionismen. Live Palestina o grossa sionismen.
Vi har odlat jorden
och vi har skördat vetet
och vi har skördat vetet.
Vi har plockat citronerna
och vi har plockat citronerna
och pressat oliverna
och pressat oliverna.
Och hela världen känner till vår jord
och hela världen känner till vår jord.
Live, live, live Palestina.
Alors bon, bah voilà, comme tous les 15 jours, hein, on documente, on essaye voilà, de reparler de ce qui se passe, parce qu'en fait, bah, il ne faut absolument pas oublier la Palestine et ses combats, et ses massacres aussi. Donc toujours à 11h le samedi, il y a l'Agora, et donc le rassemblement en soutien au peuple palestinien. Voilà, même si on ne peut pas faire grand-chose, en fait, et ben, de savoir, enfin, de qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés, c'est déjà énorme. Donc voilà, rejoignez tous ceux qui se mobilisent et qui, finalement, quelque part, sauvent notre honneur bien bas. D'autre part, alors, ben voilà, ce qui est réclamé, ben, c'est une paix juste et durable, hein, qui ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, notamment son droit à l'autodétermination, le démantèlement des colonies, pardon, la fin de l'occupation israélienne, le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU, dont la résolution 194 qui prévoit le droit au retour des réfugiés. Il y a un tract d'appel unitaire de l'Ardèche méridionale qui, à l'occasion de la commémoration de la Journée de la Terre en Palestine, reprend l'appel de la Journée internationale des luttes paysannes du 17 avril prochain de la Via Campesina, terre, eau et territoire pour la vie. D'autre part, il y a une pétition qui circule donc sur change.org, halte à la collaboration avec le gouvernement israélien et pour que le mandat d'arrêt international émis par la CPI contre Benjamin Netanyahou soit appliqué s'il se rend en Europe et en particulier, comme c'est son intention, en Hongrie.
Et maintenant, on va changer de sujet complètement et on va d'abord écouter un extrait de trio Panafrique, s'il te plaît, Sylvain.
Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Aux prédateurs tentaculaires,
aux boulimies monopolistes,
aux technocrates mercenaires,
quand la finance à ses artistes,
aux terrains de jeu au soleil,
aux chaises longues pour politique,
Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf
se servent sur la pompe afrique.
Bolo Poli, Bolo Réseau,
Bolloré voyage au Congo,
Bolloré crée son arsenal,
rejoint la cour du général.
Bolocratie, Bolo la pieuvre,
regarde les devises qui pleuvent.
Quand Bolo se roule à tarper,
il ouvre une usine au CB.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous.
Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Oui, donc c'était Pompe Afrique, vous l'aurez compris. Je te laisse, Anne, faire ta carte blanche.
Et oui, alors voilà, tu as un peu vendu la main chez Louis, parce que finalement, j'espérais créer une sorte de suspense avec mon titre « Un milliardaire breton au Togo ». Et pas que. Et bon, bah voilà, alors maintenant, comment dire, la mèche est un peu vendue. Mais néanmoins, voilà, devinez qui possède Havas, Vivendi, Universal Music, Canal+. Eh bien, c'est notre Bolloré national qui pèse 9 milliards de dollars. Mais non content de détenir plusieurs médias puissants et rémunérateurs, Bolloré investit aussi en Afrique. Et cela ne plaît pas forcément à tout le monde. Alors, soupçonné d'avoir soutenu en espèces sonnantes et trébuchantes le président autoritaire actuel du Togo, en échange de concessions sans appel d'offres transparent sur le port de Lomé, eh bien Bolo se trouvait déjà depuis 2013 embêté par la justice française à ce sujet et maintenant poursuivi même par des ONG africaines. Imaginez la chose. Alors, relayé par le togolais.com, et franchement, c'est bien d'aller voir en fait ce qui se dit dans ces pays-là et pas que dans notre presse nationale, qui appartient d'ailleurs, on sait à qui, plus ou moins. Eh bien, 11 ONG, donc regroupées sous le nom de Restitution Afrique, avec le doux acronyme de RAF, eh bien, ont décidé de déposer une plainte contre Vincent Bolloré, son fils Cyril, et puis le groupe Bolloré en général, pour recel et blanchiment liés à l'acquisition frauduleuse de concessions portuaires dans des pays comme le Togo, mais pas que le Togo, la Guinée, le Ghana, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors, les accusations incluent également le financement présumé de la campagne donc présidentielle de Faure Gnassingbé, donc le président actuel du Togo. Ce dernier, au pouvoir depuis 2005, est régulièrement critiqué pour sa gouvernance autoritaire et son rôle dans le détournement de ressources publiques. Alors, trafic d'influence et pillage organisé de la Bolloré Africa Logistique, eh bien donc les ONG exigent la restitution de 5,7 milliards d'euros. Et pour ça, elles s'appuient sur une loi française de 2021 qui permet de restituer les biens mal acquis aux populations spoliées. Donc voilà, on apprend au détour qu'il y a une loi quand même en 2021 en France votée. Donc voilà, c'est plutôt bien parce que ça peut faire référence. Et donc la 11e fortune de France, ainsi que le directeur général du groupe Bolloré à l'époque et le directeur international chez Havas, avaient sollicité donc après cette loi en 2021 une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une CRPC, hein. Et donc ils avaient explicitement, ce faisant, reconnu les faits de corruption d'agents publics étrangers et de complicité d'abus de confiance, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc ils avaient accepté de payer 375 000 euros d'amende. Mais la justice française, encore elle, a refusé de valider cet accord, jugeant que les faits de corruption étaient vraiment trop graves pour être réglés par une simple amende. Cette décision a donc marqué un tournant, rappelant que les multinationales ne peuvent plus acheter leur impunité. Souhaitons que ce soit bien vrai. En tout cas, donc, rebond. Alors, la justice en France, comme en Afrique, souhaite donc établir un précédent juridique pour mettre fin à l'exploitation systématique des ressources africaines par des multinationales sans scrupules. Et donc, en 2025, donc tout récemment, le parquet national financier a requis un nouveau procès contre Bolloré. Comme quoi l'argent ne permet pas tout à fait de tout faire et n'importe quoi, même si le groupe Bolloré avait bénéficié d'une convention judiciaire d'intérêt public, je ne vois pas trop où est l'intérêt public là-dedans, mais enfin, lui permettant d'obtenir l'abandon des poursuites contre le paiement d'une amende de 12 millions d'euros. Voilà, donc à suivre, mais en tout cas, tout cela n'a pas suffi en fait à arrêter les poursuites, effectivement, vu l'ampleur des malversations et des trafics d'influence.
C'est un feuilleton, on dirait Dallas, des fois.
Ah ben, quand tu regardes Bolloré, en fait, tu peux vraiment faire tout un feuilleton, ouais, carrément.
Et maintenant, ça va être le moment de passer au plat chaud, qui commence à être à presque refroidir, parce que le temps passe, et donc on va faire la deuxième partie des cahiers de doléances des Gilets jaunes. Et Patricia, tu vas nous parler de ce que tu voulais nous dire, là,
voilà,
pour cette émission.
Sur les cahiers. Alors, les premiers cahiers de doléances sont apparus quelques semaines après le mouvement des Gilets jaunes, en novembre 18, à l'initiative de quelques maires ruraux. À la mi-janvier, le président de la République a lancé le grand débat national sous plusieurs formes, questionnaires en ligne, réunions locales et bien sûr les cahiers papier en mairie, rebaptisés cahiers citoyens. 20 000 cahiers ont été noircis de 220 000 doléances spontanées ou étant classées par thème proposé, message de colère, d'espoir, d'histoire de vie, de préoccupation, de propositions personnelles et concernant le national, parfois très éloignées de ceux qui décident de ces propositions. C'est la plus vaste consultation en expression libre connue sur la Ve République. Entre 2019 et 2025, les cahiers seront partiellement numérisés, et consultables selon les préfectures. Dès le printemps 2019, les cahiers ont été transférés pour conservation aux archives départementales. Dernièrement, l'Assemblée a enfin voté le 11 mars une résolution de Marie Pochon, députée de la 3e circonscription de la Drôme. Il n'y a donc pas besoin de vote du Sénat pour rendre public ses cahiers. Des personnes se sont déplacées. Ce serait irrespectueux et méprisant de ne pas de les ignorer. C'était une démarche démocratique, une expression, une parole prise, une contribution enfin. Marie Pochon demande un vrai comité de pilotage, une vraie collaboration avec le gouvernement pour la publication de ses cahiers. Elle dit qu'il reste de l'argent dans l'enveloppe du grand débat national et elle demande un accompagnement pour les chercheurs qui étudieront ses cahiers. Des collectifs s'étaient montés, des films documentaires ont rendu visible l'existence de ces cahiers. Nous avons eu envie de nous rendre nous aussi aux archives départementales à Privas pour recueillir des contributions ardéchoises. Nous avons consulté quelques cahiers d'une dizaine de communes et 18 contributeurs qui ont posé des propositions spontanées. Ce n'est pas une analyse de ces propositions, nous les avons classées telles qu'écrites sur ces cahiers en 4 thèmes. Démocratie et institutions, environnement, fiscalité et économie et sociale, santé et éducation. Nous avons relevé quelques priorités pour exemple, parce que je ne pourrai jamais tout redire ce que nous avons relevé. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, indexation des salaires, retraite, RSA, rétablir l'ISF, plus de justice fiscale, sociale, environnementale, démocratique, pour résumer. Nous avons relevé une seule contribution concernant l'insécurité et les migrations. Nous avons constaté qu'elles rejoignent les contributions lues au niveau national. Mais il reste beaucoup de cahiers à consulter. Nous avons eu accès à un petit échantillon de contributions. Vous pouvez consulter le blog de Marie-Anne Chabin, archiviste française qui a étudié les cahiers de doléances si vous voulez vous informer plus sur le sujet.
Et il est temps de passer directement à la recette avec une petite musique d'intro.
Non, il est dans l'eau, il y a mon divio et dans l'air, et dans l'air.
Alors c'est une recette togolaise aujourd'hui, c'est avec un plat qui symbolise la convivialité, c'est l'ayi molou. Donc il vous faut 350 g de riz étuvé, 60 g de haricots blancs cuits, un ou deux maquereaux, 3 œufs durs, du bouillon de poisson, de l'huile, 1 litre de coulis de tomate, 3 oignons, un poivron, du concentré de tomate, de l'ail, du sel, du gingembre et du piment noir. Pour la préparation, vous lavez et salez les poissons, vous les réservez, vous faites cuire les poivrons et vous les réduisez en purée. Vous faites chauffer avec un peu d'huile les oignons, le gingembre, l'ail, le concentré de tomate. Une fois cuit, vous ajoutez le coulis de tomate. Pendant la cuisson, vous faites frire les poissons dans une autre poêle. Une fois la sauce tomate cuite, vous ajoutez les piments et les œufs coupés en deux. Vous réservez, vous faites cuire le riz et en toute fin de cuisson, vous ajoutez les haricots blancs cuits pour les réchauffer. Égouttez en douceur et puis vous pouvez servir. Donc je vous fais, pour rappel de l'émission, je vous rappelle le mail paroledecitoyen@frequence7.net. Et on se dit à 15 jours. Je vous dis à bientôt. Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.